Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage en direct ce soir encore de Roland Garros. Alors notre invité ce soir à 18h20, il s'agit de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui vient nous parler emploi après les bons chiffres publiés ce matin, alors que dans le même temps, les restaurants ne trouvent pas de salariés à recruter. Alors que peut faire le gouvernement concrètement? On lui posera la question. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Emmanuel Macron aux côtés des Bleus pour l'Euro, il a déjeuné avec eux. Alors c'est vrai que le sport, ça peut aussi aider un président, on en parlera. 19h15, le Club des Idées entretient au long cours ce soir avec Franz-Olivier Gisbert pour son livre passionnant, intimiste, sur Bernard Tapie. Ça s'appelle « Leçon de vie, de mort et d'amour ». C'est passionnant, encore une fois, Bernard Tapie, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce sera tout à l'heure avec Franz. Et puis 19h40, service Pioline, notre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur les résultats de Roland-Garros, les infos coulisses. On sera avec Cédric Pioline, évidemment, et toutes les équipes sport d'Europe 1. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Le gifleur d'Emmanuel Macron, condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, il était jugé à Valence en comparution immédiate.
AXA fait marche arrière et va finalement aider les restaurateurs touchés par le Covid.
L'assureur l'annonce sur Europe 1, il met 300 millions d'euros sur la table. En échange, les restaurateurs concernés sont priés d'oublier toute velléité d'action judiciaire.
Le président de la République à Clairefontaine, donc, à la veille du coup d'envoi de l'Euro.
Allez jusqu'au bout, a dit le président aux joueurs, prenant le temps de discuter avec chacun d'entre eux.
Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant, c'est l'OMS qui le dit et c'est préoccupant.
Le rapport accablant pour l'administration après le féminicide de Mérignac. Les défaillances se sont multipliées à tous les étages. Le gouvernement veut en tirer les enseignements.
Et puis Roland Garros, bien sûr, on est en direct ce soir de la Porte d'Auteuil. Qui l'eût cru des Français en finale? On en parlera.
Et oui, Nicolas Mahut et Pierre Garbert se qualifient en double après un match complètement fou. La Bourse de Paris a terminé en léger repli, moins 0,26% à 6546 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Prudence ce soir en région Auvergne. Rhône-Alpes, on attend potentiellement des orages.
Oui, le département de l'Ain est placé en vigilance orange, orage, forte pluie. Attention hein, dans vos déplacements ce soir, des orages violents sont en train de toucher le nord du département de l'Ain. Je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'homme qui a giflé Emmanuel Macron dans la Drôme mardi dernier était donc jugé aujourd'hui en comparution immédiate.
Oui, Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place à Valence pour Europe 1. Damien Tarel, c'est son nom, dormira donc ce soir en prison.
Exactement, un mandat de dépôt immédiat pour Damien Tarel qui est sorti du tribunal menottes au poignet. Le jeune homme a été condamné à 4 mois de prison ferme. C'est moins que les 18 mois réclamés par le procureur, mais c'est tout de même de la prison ferme. À l'énoncé du jugement, Damien Tarel a semblé accuser le coup, cherchant du regard ses proches, notamment sa petite amie qui, elle, a éclaté en sanglots. Pourtant, cet après-midi, durant l'audience, Damien Tarel est apparu calme et déterminé. Petite barbe, cheveux longs, petite lunette ronde, l'homme de 28 ans n'a pas esquivé ses responsabilités. Il a expliqué que les choses n'avaient pas été préparées, mais qu'il avait obéi à une pulsion lorsqu'Emmanuel Macron s'est présenté devant lui mardi pour lui serrer la main. « Je n'ai pas aimé son sourire menteur qui voulait faire de moi un électeur potentiel », a raconté le jeune homme, qui se définit volontiers comme « patriote et gilet jaune ». « Je me suis senti investi d'une mission », a-t-il poursuivi, celle d'agir au nom de ceux qu'on n'entend pas, au nom du peuple français. Un discours parfois alambiqué, truffé de références obscures aux chevaliers du Moyen-Âge et souvent teinté de complotisme. Tout de même, à un moment, Damien Tarel a qualifié son geste d'acte regrettable, mais dans le même temps, il a poursuivi ses critiques vis-à-vis du chef de l'État, la déchéance de la France selon lui, et il n'a pas nié ses sympathies pour l'extrême droite. Il a même précisé que l'exemplaire de Mein Kampf retrouvé chez l'ami qui l'accompagnait, c'est lui-même qui lui avait offert. Bref, un jeune homme qui n'a pas renié ses convictions profondes tout au long de l'audience, qui est même resté assez revendicatif et qui donc a été condamné à 4 mois de prison ferme.
Bien, merci Jean-Luc Boujon, en direct donc de Valence dans la Drôme.
Dans l'actualité également, AXA qui va finalement débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour aider 15 000 restaurateurs.
Oui, l'annonce a été faite ce matin sur notre antenne Europe 1 par le directeur général d'AXA. Cette enveloppe va donc permettre d'éponger une partie des dettes dues à la crise sanitaire.
Ce n'est pas une indemnisation, c'est une transaction pour mettre fin à ce flou judiciaire qu'on a vécu et on veut mettre ça derrière nous. Ça veut dire qu'on offre maintenant une transaction à beaucoup de monde qui n'ont rien demandé et ça c'est important. Même les gens qui ont perdu ont maintenant le droit à cette transaction.
Le directeur général d'AXA, Thomas Buberl, invité d'Europe 1 ce matin avec Sébastien Krebs. 300 millions d'euros donc, il faut préciser que ça concerne uniquement les restaurateurs bien sûr assurés chez AXA et qui avaient dans leur contrat une clause spécifique épidémie. Alors Clément Le Saffre, sont-ils satisfaits ce soir après ces annonces?
Il y a à peu près autant d'avis que de restaurateurs. Ceux qui sont satisfaits, ce sont d'abord tous ceux qui n'ont pas attaqué AXA en justice. Ils récupèrent une indemnisation qu'ils n'attendaient pas forcément, 20 000 euros en moyenne. Satisfaction aussi chez ceux qui ont fait condamner AXA. Ils sont allés au bout de leur procédure, comme Jean-Michel Alazard, restaurateur dans les Alpilles. Il estime que son combat pour faire valoir la fameuse clause épidémie était légitime et a poussé AXA à faire amende honorable.
Quand on assure quelqu'un pour maladie contagieuse et qu'on est dans le cas concret et qu'on vous dise « Ah non, non, on vous assure pas parce qu'il faut que ça concerne qu'un établissement au niveau d'une épidémie ou d'une pandémie », je trouve ça juste hallucinant, quoi.
Alors, il y a quand même des sceptiques, notamment au niveau du montant de l'indemnisation. Pour Didier Chenet, le président du GNI, le groupement des indépendants de l'hôtellerie-restauration, AXA doit aller plus loin.
300 millions pour 15 000 entreprises, ça fait jamais que 20 000 euros par établissement, c'est dérisoire. Et moi, j'encourage tous les professionnels à prendre contact avec AXA, nous allons les conseiller, et puis faire en sorte, eh bien évidemment, qu'ils arrivent à une indemnisation qui soit une indemnisation équitable.
Voilà, on l'entend, pas sûr donc que les 300 millions débloqués par AXA suffisent à clore ce feuilleton qui dure depuis plus d'un an.
Eh bien, merci beaucoup Clément Le Saffre du service Éco d'Europe 1.
Alors que le Premier ministre Jean Castex est donc à l'isolement, car cas contact, Emmanuel Macron lui a passé une partie de la journée avec les Bleus du foot, à la veille du coup d'envoi de l'Euro.
Et le président a déjeuné avec l'équipe de France, il a même pris le temps de discuter avec chacun des joueurs, Cyril de la Morinerie.
Oui, devant les marches menant à l'entrée du château, sous un beau soleil, Emmanuel Macron a salué les Bleus, tous habillés en survêtement officiel, en leur tapant dans le poing. Le chef de l'État a notamment échangé avec Karim Benzema et lui a demandé des nouvelles de sa blessure.
Comment ça va, Karim? Ça me fait plaisir. Bon, ça va, c'est... T'as pas une blessure sérieuse? C'est vrai? Un méchant?
Le président français a ensuite félicité Kylian Mbappé de s'être fait vacciner.
Hey Kylian, tout va bien? Merci pour le vaccin. Non, ça a été top.
Amateur de football, le président de la République a félicité N'Golo Kanté pour sa victoire en Ligue des Champions. Avez-vous toujours trois poumons? A-t-il demandé. Lors du déjeuner, Emmanuel Macron a rappelé l'importance d'avoir un bon état d'esprit, comme l'a révélé en conférence de presse à une question d'Europe 1, Paul Pogba.
Le message qu'il nous a dit, vraiment, voilà, c'est le groupe qui fait la force. Il a appuyé sur ce mot de rien lâcher. Vraiment, rester dans la même mentalité qu'on a toujours eu.
En 2018, Emmanuel Macron avait demandé aux Bleus de ramener la coupe à la maison. Trois ans plus tard, pour l'Euro, le message est identique. « Allez jusqu'au bout », a lancé le président. Antoine Griezmann a répondu « On va essayer ».
J'espère qu'ils vont essayer. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct de Clairefontaine, évidemment. On le disait, Jean Castex, cas contact, preuve, s'il en fallait, qu'on n'en a pas fini avec cette épidémie.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, met en garde. Le niveau de vaccination en Europe est loin d'être suffisant, Anne Le Gall.
Voilà, nous sommes loin d'être hors de danger, prévient le directeur Europe de l'OMS qui argumente avec des chiffres. Un tiers des Européens seulement ont reçu une première dose et 17% sont totalement vaccinés. Bien loin donc des 80% requis pour atteindre l'immunité collective. L'OMS pointe un risque de résurgence du virus cet été avec la levée des restrictions sanitaires et appelle à éviter les voyages à l'étranger. Par ailleurs, au-delà de l'Europe, l'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète aussi beaucoup pour l'Afrique, continent sur lequel 2% des habitants seulement ont reçu une dose de vaccin. L'OMS appelle d'urgence à la solidarité internationale et au partage des vaccins. L'Afrique se trouve en effet sous la menace d'une troisième vague avec des contaminations en hausse de 30% dans une dizaine de pays.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, on fait une pause, 18h08, dans quelques secondes. Le rapport accablant sur le drame de Mérignac, on en parle. Cette femme brûlée vive par son mari, le gouvernement veut en tirer les enseignements.
Et puis des Français, et oui, des Français, en finale à Roland-Garros.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite du journal, défaillance mortelle, les mots sont forts. Un rapport officiel pointe donc la longue liste des dysfonctionnements qui ont conduit au féminicide de Mérignac. La mort d'une mère de famille brûlée vive par son mari, déjà condamné pour violence.
Oui, on avait déjà évoqué le manque de communication entre la police et la justice. Mais ce rapport, Victor Delande, va encore plus loin. Il accable quasiment tous les acteurs du dossier.
Oui, un document de 27 pages qui pointe au moins 4 gros dysfonctionnements. Le premier, alors même qu'il est incarcéré déjà pour violence, le suspect écrit et appelle à plusieurs reprises la jeune femme. Chahinez dépose plainte sans que le juge d'application des peines en milieu fermé en soit averti. Deuxième faille, quand Chahinez se présente au commissariat le 15 mars dernier après avoir été frappé par son mari, sorti de prison sans bracelet anti-rapprochement quelques mois plus tôt, sa plainte est mal transmise au parquet. Le mail des fonctionnaires de police est incomplet. parfois inexacte et en partie illisible. Le magistrat réclame alors une nouvelle version qu'il n'obtiendra jamais. Troisième défaillance, cette fois-ci imputable à l'association chargée du suivi de Chahinez. Lors d'une réunion du comité de pilotage grave danger, le nouveau dépôt de plainte de la jeune femme est mentionné sans que cela occasionne une mise à jour de son dossier pour la faire passer dans les situations à surveiller. Aucun dispositif de protection ne lui sera accordé. Enfin, quatrième dysfonctionnement et non des moindres, le 29 mars dernier, quand le suspect se présente au commissariat très énervé parce qu'il veut récupérer ses enfants, un fonctionnaire de police s'empresse de l'expulser pour rétablir le calme, mais il ne vérifie même pas l'identité de cet homme qui était recherché. Pourtant, c'est ce même policier qui avait recueilli la plainte de Chahinez 2 semaines plus tôt.
Et alors Victor, en réaction à cette affaire et à ces dysfonctionnements, Jean Castex a demandé à ses ministres de l'Intérieur et de la Justice de mettre en place de nouvelles mesures.
Oui, avec entre autres quelques 3000 téléphones grave danger qui seront déployés d'ici 2022 contre 1300 aujourd'hui. Les bracelets anti-rapprochement devraient se multiplier et un fichier des auteurs de violences conjugales sera mis en place. Mais les associations de lutte contre les violences faites aux femmes regrettent déjà que la question budgétaire, pourtant centrale, ne soit absolument pas abordé.
Merci Victor Delande du service société d'Europe 1.
À Roland-Garros, dernière ligne droite de la quinzaine avec des Français en finale.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Axel May, on a beaucoup dit que les Français n'avaient pas vraiment brillé cette année, c'est vrai. C'était valable en simple, en revanche en double, ils sont deux en finale.
Oui, ambiance de Coupe Davis tout à l'heure sur le cours Simone Mathieu. Les Allez les Bleus répondaient aux encouragements de la communauté sud-américaine très présente dans les gradins. Rendez-vous compte, premier set remporté au tie-break par le duo Juan Sebastian Cabal, Robert Farah, puis Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert, puisqu'il s'agit d'eux, sauvent 3 balles de match dans la deuxième manche et enlèvent ensuite le dernier set et la rencontre. 6-7, 7-6, 6-4. Herbert et Mahut retrouvent la finale comme il y a 3 ans. Ils étaient alors allés au bout. Johanna Chabas les a croisés dans les allées de Roland et a réussi à leur arracher 2 mots avant la conférence de presse officielle.
On le sent qu'on a gagné aujourd'hui, on est en finale. C'est génial.
Alors, Mahut et Herbert affronteront les Kazakhs Bulbik Golubev en finale samedi. Et ce n'est pas tout, je peux déjà vous dire, Isabelle, que chez les juniors, il y aura un Français qui va l'emporter ce week-end, parce qu'ils sont 4, et c'est historique, à s'être qualifié pour le dernier carré. Je vous donne leur nom, Arthur Fils face à Giovanni Mfetsi Pericard, et puis Sean Quinin face à Lucas Van Hache. Voilà pour le côté, allez, on peut le dire un peu chauvin, parce que chez les seniors, il n'y a plus personne depuis longtemps. En ce moment, c'est la deuxième demi-finale féminine, la seconde. La sculpturale grecque Maria Sakkari est menée 6-5 par la tchèque Barbara Krejčíková dans la première manche. Et attention, puisqu'elle est au service Sakkari et qu'elle est en difficulté, elle va peut-être perdre cette première manche. L'autre, à l'instant, elle perd la première manche. Victoire donc de Krejčíková 7-5 dans la première manche. Et puis l'autre demi-finale, c'était Anastasia Pavlyuchenkova qui s'est imposée 7-5, 6-3 face à la surprise slovène Tamara Zidanec.
Et on traque la grecque et sculpturale. Merci beaucoup, Axel May.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Merci Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment tout à l'heure à 18h30 pour le rappel de l'info. La météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Avec Anissa Haddadi, grande prudence ce soir Anissa dans le département de l'Ain qui est donc placé en vigilance orange.
Oui, les orages actuels sont violents, Julien, sur la ville de Nantua en particulier. La ville est inondée avec des coulées de boue. Les cumuls d'eau approchent les 100 mm. La circulation est très difficile dans le secteur. Alors l'orage devrait se calmer aux alentours de 19h. On va suivre ça de près. Pour demain, rien à signaler. C'est une journée estivale qui nous attend avec un beau franc soleil. Attention aux orages sur les reliefs. Les températures sont en hausse, 11 à Rouen demain matin, 17 à Paris, 23 à Perpignan. Dans l'après-midi, on aura 23 à Brest, 26 à Lille, 29 à Paris, 31 degrés à Bordeaux, 32 à Carcassonne et 34 degrés à Nîmes. Et ça va continuer de grimper ce week-end.
Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure également à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, vous restez avec nous une petite pause. Dans quelques secondes, Elisabeth Borne sera avec nous, la ministre du Travail, pour parler de l'emploi qui rebondit. C'est une bonne nouvelle, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonsoir Elisabeth Borne. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir, ici en direct de Roland-Garros. Ça fait du bien d'ailleurs de retrouver le public dans les allées de Roland-Garros. D'abord, est-ce que vous avez pu profiter, vous aussi, comme le Premier ministre, de cette première soirée de déconfinement en vous offrant aller un bon restaurant?
Pas encore, je vais essayer de faire ça ce soir.
Bon, c'est important quand même, ça fait du bien.
Absolument,
de retrouver la vie d'avant.
Je pense que c'est un moment qui est positif. Hein, où effectivement, les bons indicateurs sanitaires nous ont permis d'assouplir à nouveau les règles. C'est effectivement une bonne nouvelle pour les Français qui ont pu profiter de 2 heures de plus. C'est une bonne nouvelle pour les secteurs d'activité qui peuvent repartir. Et puis, c'était aussi une bonne nouvelle pour beaucoup de salariés qui étaient en télétravail à 100% et qui ont pu retrouver progressivement le chemin du bureau.
Alors, il paraît qu'il y a des salariés qui ne veulent pas retourner au bureau et qui préfèrent rester en télétravail. On en parlera, on en dira un petit mot tout à l'heure. Alors, l'autre bonne nouvelle du jour, Madame la Ministre, c'est le net rebond du marché de l'emploi au premier trimestre. 89 000 créations dans le privé. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste à relativiser, car si on fait le solde depuis le début de la crise sanitaire, j'ai fait le calcul, on est sur 200 000 pertes nettes de postes, mais la tendance est bonne.
Alors effectivement, je pense qu'on a quand même déjoué des prévisions qui étaient très pessimistes hein, pour certaines. On a largement amorti l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi et ces chiffres sont très bons au premier trimestre où on avait quand même des restrictions sanitaires qui étaient encore présentes. Et voilà, près de 90 000 créations nettes d'emplois dans le secteur privé, je pense que ça montre la capacité de notre économie à rebondir. Ça montre quand même l'impact des aides massives, du prêt garanti par l'État, du fonds de solidarité, de l'activité partielle qui a permis de sauver massivement les emplois.
Oui, l'État a été au rendez-vous, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup entendu, à juste titre d'ailleurs. Est-ce que vous visez toujours 100 000 créations de postes cette année et 300 000, c'était l'objectif initial, je crois, d'ici fin 2022? Est-ce que c'est atteignable?
Écoutez, on pense qu'on pourra retrouver le niveau d'activité de 2019, début 2022, donc avec les créations d'emplois qui vont avec. Et vous voyez, moi, quand j'entends toutes les entreprises qui nous disent on veut recruter, je pense qu'on voit qu'on a une très bonne dynamique sur l'emploi.
Alors, on entend aussi dans le même temps parfois des rumeurs sur des licenciements massifs dans de grandes entreprises. J'ai une question un peu naïve, un peu toute bête. Est-ce que vous serez, le cas échéant, en mesure de les interdire ou de les limiter si ce sont des entreprises qui ont reçu des aides massives de l'État ?
On est très vigilant dès qu'on a une entreprise qui a un projet de restructuration, qui prépare un PSE, à ce que d'abord l'entreprise se saisisse bien de tous les dispositifs qu'on a mis en place pour éviter les licenciements. On a eu l'activité partielle. Maintenant, quand des entreprises anticipent une baisse durable de leur activité, il y a l'activité partielle de longue durée qui permet de bénéficier d'une prise en charge d'une partie des salaires des salariés pendant jusqu'à 24 mois. Oui. Donc il y a tous ces outils qui sont là. Donc à chaque fois, on discute avec les entreprises pour limiter les destructions d'emplois.
Bon, il n'y a pas raison de licencier massivement si on a été soutenu par l'État, a priori.
Si on a des bons résultats, en tout cas, il n'y a pas de raison de licencier.
Alors, dans le détail de ces chiffres publiés ce matin par l'INSEE, ça monte fort pour la construction, ça monte fort aussi pour la santé. Il y a un secteur qui peine considérablement à recruter, c'est l'hôtellerie et la restauration. Il y aurait 100 000 postes à pourvoir avec des professionnels qui nous disent on ne va pas y arriver, on n'aura pas assez de main-d'œuvre pour assurer le tourisme cet été. Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord,
que peut faire le gouvernement là-dessus?
D'abord, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends des entreprises ou des secteurs qui nous disent on veut recruter, on a besoin de recruter,
c'est une bonne nouvelle.
C'est quand même une bonne nouvelle. Mais effectivement, il y a des secteurs qui ont des difficultés à recruter. C'est le cas des hôtels, cafés, restaurants, c'est le cas du bâtiment. S'agissant du bâtiment, il faut être conscient que c'est un secteur qui avait déjà des difficultés à recruter avant la crise. Non seulement on a préservé des emplois grâce aux aides d'urgence, mais avec le plan de relance, on a créé de nouveaux emplois et par rapport à ce qu'on avait avant la crise, on a 50 000 emplois de plus dans ce secteur du bâtiment. Donc c'est là encore une très bonne nouvelle. Mais évidemment, on ne reste pas les bras croisés. Moi, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai mobilisé Pôle emploi en demandant de présenter ces métiers qui recrutent aux demandeurs d'emploi, en regardant aussi parmi des demandeurs d'emploi ceux qui ont déjà travaillé dans ces métiers et en leur proposant, si c'est nécessaire, des formations pour qu'ils aient vraiment les compétences dont les entreprises ont besoin.
On peut les forcer à accepter ces emplois, à leur dire si vous en refusez deux, il n'y aura plus d'allocation, il y aura une baisse des allocations.
Honnêtement, aujourd'hui, d'abord, on identifie les demandeurs d'emploi qui ont des compétences dans ces secteurs, on les forme si c'est nécessaire et c'est quelque chose qui marche. Cette mobilisation de Pôle emploi, moi je tiens à dire, elle fonctionne. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, il y a 90 000 offres d'emploi qui avaient été déposées chez Pôle emploi qui ont été pourvues. Dans le domaine des cafés-restaurants, il y a 40 000 offres d'emploi qui ont été pourvues. Je précise aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne déposent pas leurs offres chez Pôle emploi. Oui. 70% des entreprises du bâtiment qui cherchent à recruter ne passent pas par Pôle emploi. Oui. 60% pour les restaurants. Donc moi je dis aux entreprises, faites confiance à Pôle emploi. Je sais, oui, qu'il peut y avoir des doutes, mais
Madame la ministre,
ça marche.
Elisabeth Borne, comment on explique ce paradoxe? Parce que c'est structurel, la pénurie de main-d'œuvre dans la construction, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des emplois dont ne veulent pas les Français?
Je pense qu'il y a aussi un enjeu d'attractivité. Vous savez, moi, quand le secteur des hôtels, cafés, restaurants nous dit, pendant que les salariés étaient en activité partielle, il y en a qui sont passés à autre chose.
Oui.
Ben, je pense qu'il faut aussi que le secteur s'interroge sur l'attractivité de ces métiers. Et c'est un sujet sur lequel, moi, je souhaite qu'on travaille avec ce secteur professionnel. Les gens, ils peuvent aussi vouloir des contrats plus longs. C'est un secteur, oui, où il y a beaucoup, oui, de CDD. Et ça doit être aussi quelque chose d'important d'avoir des emplois de meilleure qualité. On va y travailler avec
le
secteur.
J'ai eu beaucoup de questions de la part des internautes qui nous suivent activement sur le compte Europe 1. Jérôme, par exemple, qui nous dit « J'ai hâte que vous nous rassuriez, Madame la Ministre. Nous, CDD, standardistes, précaires, conférenciers sur la prolongation des droits au chômage jusqu'à la fin de l'année. » Qu'est-ce que vous lui répondez à Jérôme ?
Alors, je réponds qu'on a prolongé depuis novembre les allocations des demandeurs d'emploi qui étaient arrivés en fin de droit. Et donc ça, on le fait jusqu'à la fin de ce mois. C'est plus de 800 000, 830 000 demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cette prolongation. C'est quand même 3 milliards d'euros.
Oui, mais on s'arrêtera là pour lui répondre.
Alors aujourd'hui, l'activité repart. Et donc je pense que la démarche, puisqu'on a par ailleurs des secteurs qui nous disent on n'arrive pas à recruter, c'est qu'on puisse proposer aux demandeurs d'emploi des formations pour les accompagner vers les métiers qui recrutent.
Merci pour lui et merci pour cette réponse. La réforme des retraites, un peu l'arlésienne quand même de ce quinquennat, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, dit-lui qu'il faut arrêter de bricoler et passer à l'âge de départ à 64 ans. Il en fait d'ailleurs un enjeu de la campagne présidentielle. Il paraît que d'ailleurs c'est une option de travail en ce moment au sein du gouvernement, relever l'âge de départ. D'abord, qui est aujourd'hui situé aux alentours de 62 ans.
62 ans.
Est-ce que vous le confirmez, que c'est une option ?
Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire, puisque le président de la République a souhaité avoir un moment d'écoute,
oui,
avec les Français, avec les forces politiques, avec les organisations patronales et syndicales.
Mais au-dessus,
vous savez,
de 62
ans. Sur le fond, on est convaincu qu'il faut une réforme des retraites, qu'on a besoin d'un système qui soit à la fois plus lisible, plus juste, et qu'on a un enjeu de ramener aussi notre système de retraite à l'équilibre.
À l'équilibre.
On vient d'avoir le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Je pense qu'on sait aussi qu'on est un pays dans lequel, un des pays de l'OCDE, oui, où on travaille le moins, au-delà de 60 ans.
Parce que le président de la République, il a dit cette réforme était très ambitieuse, complexe et du coup porteuse d'inquiétude. Ça veut dire qu'on s'est un peu trompé, que le gouvernement s'est un peu trompé.
Ça veut dire que les objectifs on garde ces objectifs, d'avoir un système plus lisible, plus juste, et évidemment de ramener aussi ce système à l'équilibre, parce que c'est l'enjeu de sa pérennité, mais qu'il faut certainement trouver un autre chemin, et c'est le sens de la phase d'écoute qu'a voulu le président de la République.
Mais est-ce qu'il y aura une réforme avant la fin du quinquennat ?
Mais je vous réponds que c'est la décision du président de la République.
On lui posera la question alors.
C'est la décision du président de la République, et il faut prendre ce moment d'écoute, oui, qu'il a souhaité, et puis il a redit aussi. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire repartir l'activité, de créer le maximum d'emplois et évidemment que ces emplois soient pourvus.
Bien, un tout petit mot, il nous reste peu de temps pour terminer, mais je voudrais vous poser la question parce que c'est vrai que vous avez dit vous-même que le télétravail allait considérablement modifier. C'était un acquis maintenant pour les travailleurs. Et c'est vrai qu'on observe dans les reportages qu'on fait des télétravailleurs qui ne veulent plus revenir au boulot, qui disent ben nous, on est aussi contents de travailler à distance, maintenant on est à la campagne, on a déménagé. Est-ce que vous engagez, vous encouragez les entreprises à télétravailler peut-être plus souvent pour leurs salariés dans l'avenir ?
Alors, moi j'encourage les entreprises à négocier des accords sur le télétravail. Vous savez qu'il y a un accord national qui, oui, a été trouvé entre les organisations patronales et syndicales à la fin de l'année. Vous l'avez dit, il y a à la fois des salariés qui
sont... Il y en a qui veulent revenir.
Il y en a qui veulent revenir, qui n'en peuvent plus d'être à 100% en télétravail depuis des mois. Et puis on a au contraire des salariés qui ont changé leurs habitudes de vie et qui veulent rester en télétravail. Ça veut dire que c'est des sujets qui doivent se discuter dans l'entreprise, entre la direction et les représentants des salariés. Et moi j'invite vraiment les entreprises à négocier des accords sur le télétravail.
Bien, merci infiniment Elisabeth Borne d'avoir été ce soir notre invitée. Et bon dîner si vous avez l'occasion et un peu de temps pour aller dîner au restaurant. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h28, dans quelques secondes, le rappel des titres. Et puis on parlera avec les grandes voix d'Emmanuel Macron, qui était aujourd'hui aux côtés des Bleus. Jolie photo à Clairefontaine pour la politique. On posera la question à nos débatteurs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h31, on est toujours ici, évidemment, en direct de Roland-Garros à la Porte d'Auteuil. Le rappel de l'info avec vous, Isabelle Millet.
Et l'homme de 28 ans qui a giflé Emmanuel Macron mardi lors de son déplacement dans la Drôme, condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il a été conduit en prison. Lors de son audition, il a assumé totalement son geste. La liste des constructeurs mis en examen en France dans l'affaire du Dieselgate s'allonge encore. Après Volkswagen, Renault et Peugeot, c'est au tour de Citroën. Le premier jour d'un procès hautement symbolique, celui du meurtrier présumé de Julie Douib. Une femme avait été tuée par son ex-compagnon en 2019 en Corse, affaire qui avait lancé la mobilisation contre les violences faites aux femmes et le Grenelle sur les violences conjugales. Et puis Roland Garros, les Français Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut qualifiés pour la finale du double. Chez les femmes, la Russe Pavliouchenkova se qualifie elle aussi pour sa première finale de sa carrière. Elle affrontera la Tchèque Krejčíková ou la Grecque Sakkari qui sont actuellement sur le court. Premier set remporté par la Tchèque. La Grecque mène 3-0 dans le deuxième set.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal. La météo avec Anissa Haddadi, un violent orage touche le département de l'Ain.
Oui, depuis plusieurs jours l'atmosphère est orageuse en montagne. Et bien cet après-midi, un orage sur le Jura a débordé sur la ville de Nantua. La ville est sous l'eau, des coulées de boue, des inondations sont en cours. Soyez prudents dans le secteur. La vigilance est en cours jusqu'à 20h. Demain, c'est une journée estivale qui nous attend avec une hausse des températures jusqu'à 34 degrés dans le sud.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir. 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du jeudi, toujours en direct de Roland-Garros, avec ce soir à mes côtés, devant les cours, Porte d'Auteuil, Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Politique, le politologue Pascal Perrineau, bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir Julien.
Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie évidemment d'Europe 1, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Alors c'est une tradition, alors que l'Euro débute demain, voilà qu'Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, est allé aujourd'hui à la rencontre des Bleus, dans leur siège à Clairefontaine. Il a déjeuné avec eux, il a ensuite donné une interview à des journalistes de nos confrères d'RMC. On écoute.
Il ne faut pas mettre trop de pression sur l'équipe de France, et on ne peut pas lui demander de, en quelque sorte, résoudre les difficultés de la nation qui sont plus profondes qu'ont toutes les sociétés démocratiques aujourd'hui. Mais je pense que le sport peut contribuer, en tout cas, à ces moments d'union nationale qu'on doit après collectivement transformer en autre chose.
Bien, alors c'est une tradition, Pascal Perrineau, hein, depuis Jacques Chirac. On se souvient que Jacques Chirac avait bénéficié d'ailleurs totalement hein, de l'effet Coupe du Monde en 98. Il avait pris, je crois, plus de 10 points et même 15 points dans certains sondages. Ça n'a pas été le cas pour Emmanuel Macron lors de la dernière Coupe du Monde, parce qu'il a quand même fait partie des rares présidents qui ont pu tenir dans leurs mains une Coupe du Monde. Mais bon, ça peut jouer.
Ça peut jouer parce que on est tout de même dans une France qui multiplie les signes de fracture, d'irritation, de violence verbale ou autre. Et le président a été le premier à en pâtir récemment. Et donc, tous les symboles qui sont des symboles d'unité, les bleus, l'équipe oui. nationale, le drapeau bleu-blanc-rouge, la France multicolore, on a eu le droit à nouveau, en effet, à une ode à cette France qui, contrairement à d'autres pays, est très multicolore et arrive encore, peut-être, à intégrer ces Français.
Le symbole Benzema, voilà,
il
en a parlé.
Il en a parlé. Donc, d'autre part...
On peut le dire, une forme de rédemption, c'est important aussi dans l'histoire française.
C'est très important à l'heure où, en effet, on sait que la France souffre aussi de mémoires douloureuses. Et la mémoire de la guerre d'Algérie est une mémoire qui hante encore la vie politique française. Et puis, il le fait avec une certaine vérité, ou une vérité certaine, diraient certains, parce que, voilà, il est tout de même... c'est un fouteux. Il connaît bien le foot. Alors certes, il soutient l'OM
oui.
et pas d'autres clubs.
Oui.
Mais enfin, on sent qu'il connaît et que ça n'est pas simplement une posture.
Alors Emmanuel Macron dit qu'il sentait d'ailleurs un vent d'optimisme souffler sur la France. On sent véritablement, Émilie Zapalski, qu'il a envie de tourner la page Covid et se projeter vers l'avenir et vers des jours heureux. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs il y a presque un an maintenant, quand on était sorti de la première vague du Covid.
Il y a un an, c'était un peu tôt. Là, on a l'impression qu'il veut surfer hein, sur l'ouverture des terrasses, cette espèce d'optimisme, d'enthousiasme, et le sport en fait partie, et avec l'unité nationale, ça fait un cocktail assez positif. Je pense que c'est aussi une séquence séduction vis-à-vis des jeunes, qu'il avait un peu commencé avec YouTube, hein, avec McFly et Carlito, quand il est allé dans cette émission. Il y a cette envie aussi de reséduire les jeunes, parce que il y a un parti qui rogne un petit peu sur les jeunes et sur les trentenaires en ce moment, c'est le Rassemblement National. Donc il y a cette occasion, à travers le sport, à travers cet enthousiasme, d'essayer d'attirer ça, et de profiter au maximum de cet optimisme, de faire peut-être un peu oublier la gestion Covid, un petit peu déficiente, un petit peu mauvaise par moment.
Au début.
Après, on s'est rattrapé.
Voilà. Il y a eu plein de symboles, d'ailleurs, dans cette visite. Il y a eu le petit échange avec Kylian Mbappé et Emmanuel Dutheil. Vous savez, il a posté, Kylian Mbappé, une photo de son premier vaccin. Évidemment, quand on sait la popularité de Kylian Mbappé et le nombre de followers qu'il a sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact. Et donc, le président lui a dit « Merci Kylian pour le vaccin, ça a été top ».
Oui, mais moi, je vais prendre presque ma casquette de chef du service éco, parce que je pense que s'il voit le côté positif, il y a aussi un attrait économique à tout cela, puisque les terrasses viennent de rouvrir, les restaurants viennent de rouvrir. C'est le moment idéal pour relancer l'économie. Et ça peut paraître idiot de le voir sous ce prisme-là, mais je peux vous dire que si ça repart, il y aura sûrement un bel impact de ce côté-là. Le chiffre d'affaires en ce moment...
Mais le foot, ça peut bénéficier à l'économie ?
Bien évidemment, parce que déjà, ça bénéficie d'un point de vue équipement. On sait qu'à chaque fois, les télévisions se vendent comme des petits pains à ce moment-là. Ça bénéficie aux restaurants, ça bénéficie aux terrasses, et ça va permettre de mener...
Ouais, les télés, c'est bien, ça fait de la TVA, mais ça fait pas
de l'emploi, mais enfin bon, ça fait de l'économie. Parce que, vous savez, le patron de France Boisson, qui alimente tous les cafés et restaurants en boisson, disait récemment, en ce moment, on vit tous les soirs une fête nationale. Ben, je peux vous dire que grâce à l'euro, on va vivre toutes les soirs une Coupe du Monde, si tant est qu'on reste longtemps, et on peut quand même le souhaiter. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, je suis tout à fait d'accord sur le côté Union Nationale, mais il peut y avoir ce petit relan qui peut permettre de tourner la page.
Bien. Pascal Perrineau, vous avez participé au bénéfice de France Boisson ou pas? Vous avez profité un peu hier soir
j'ai donné hier soir dans cette liturgie nationale.
Mais c'est vrai qu'on sent dans les rues, partout en France, une espèce de vague d'optimisme et une envie de profiter, de consommer.
Imaginez que seulement avec les terrasses, les restaurants ont fait 85% de leur chiffre d'affaires normal. Vous imaginez
par exemple, à Paris, seul un restaurant sur deux était ouvert.
Bien sûr.
Oui, mais c'est ponctuel aussi, parce que là, oui, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme. Vous parlez du sport et de tout ce que ça peut rapporter aussi, les boissons, les terrasses ouvertes, mais la rentrée, on attend une rentrée sociale compliquée. Aides commencent à être retirées petit à petit, et on sent ici ou là des gens qui commencent à râler en disant « Mais pourquoi moi, j'ai plus cette aide ?» Pourquoi ? Voilà, parce que c'est progressivement retiré aux secteurs qui ont le plus souffert et petit à petit moins fragilisés, mais la rentrée risque d'être très difficile. Les défaillances sur les attentes.
Le parcours des Bleus peut permettre d'atténuer un petit peu ce risque.
Oui, il faut rester optimiste.
Bien, alors justement, en parlant de mauvaises nouvelles, on va parler des retraites dans quelques secondes. On va en parler justement avec la ministre Elisabeth Borne. Restez avec nous, 18h39, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41 avec toujours la suite des grandes voix du jeudi. On parle donc d'un sujet qui revient un peu l'arlésienne de ce quinquennat, la réforme des retraites. Emmanuel Macron a donc balayé l'idée, la semaine dernière, d'une reprise telle quelle du projet de réforme porté par Édouard Philippe en 2020. Le débat pourrait s'inviter bientôt à l'agenda, c'est en tout cas ce que sous-entendait le délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini, ce matin à la radio.
Je pense que c'est trop tôt pour dire si on va le faire avant ou après 2022. Je crois qu'il faut faire cette réforme des retraites, mais je pense qu'effectivement le sens de l'histoire, c'est de travailler un petit peu plus longtemps.
Bon, ça va un peu dans le sens de ce que disait tout à l'heure Elisabeth Borne. On sent que la majorité ministre ou députée parlementaire est un peu gênée aux entournures. D'ailleurs, le président de la République, je le rappelais tout à l'heure, a dit en substance, on a peut-être fait trop compliqué et ça a donné aux Français le sentiment que c'était pas clair. Est-ce que cette réforme peut aller au bout d'ici la fin du quinquennat ?
Vous avez raison, c'est que je pense que la réforme dite par points, qui était une réforme extrêmement importante, très structurelle, qui allait changer beaucoup de choses dans le régime, n'a pas été comprise. Elle était sûrement trop compliquée et là, semble-t-il, le gouvernement ne veut pas aller là-dessus et principalement le président de la République qui a repris véritablement le dossier. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce soit Elisabeth Borne à votre micro tout à l'heure, ou Bruno Le Maire qui était au micro du grand rendez-vous d'Aurélie Herbemont ce week-end sur Europe 1, pareil, il disait « Oulala, mais attendez, c'est le président de la République qui va décider du contour et du calendrier. » On sent bien que personne, là, en pleine régionale, ne veut faire le faux pas sur les retraites qu'il ne faut pas faire. La seule chose qui semble certaine, c'est que des ministres poussent, en l'occurrence Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, pour que ce sujet revienne sur la table. Et comment ? Avec une réforme dite paramétrique, ça veut dire quoi ? Sûrement effectivement la petite musique qu'on commence à entendre, puisque Bruno Le Maire l'a dit.
On revient sur du classique.
On revient sur du travailler plus. Alors, c'est un sujet qui est toujours compliqué, mais c'est un message qui plaît généralement aux électeurs de droite. Oui. Et Bruno Le Maire a esquissé une petite idée ce week-end chez nous. Pour être très honnête, moi j'étais passé à côté de cette réforme dite portugaise, mais qui est une réforme assez intelligente, qui est plutôt bien faite, puisque elle est plus ou moins dure en fonction de la croissance. C'est-à-dire que s'il y a pas mal de croissance, on relève pas mal les retraites. S'il y a moins de croissance, on les relève moins. Et on allonge la durée de cotisation en fonction de l'amélioration de l'espérance de vie. Donc elle est très bien foutue, c'est vrai, sur le papier. Alors Bruno Le Maire le dit à titre personnel. Enfin bon, je pense qu'on sort pas une idée comme ça si ça fait pas partie des pistes sur la table ou au minimum les pistes que le ministre de l'économie doit pousser.
Intéressant cette piste portugaise, Pascal Perrino.
International, parce que parfois, contrairement à ce que croit très souvent la classe politique française, il y a de bonnes idées en dehors de l'Hexagone. Et on pourrait s'inspirer, en effet, aussi d'autres pays. La Suède, par exemple, a bien réussi sa réforme, mais ça a demandé 10 ans de concertation. 10 ans de concertation, la consultation de toutes les forces vives, la mise en œuvre d'une véritable culture du compromis. Là, en France, on a énormément de mal. Quand on touche aux retraites, on touche tout le monde. Et donc, il faut le compromis. Et on est dans un pays qui n'aime pas le compromis, pas la culture.
C'est un peu le syndrome éolienne, ou plus près de nous, celle de Schultz. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le papier, mais personne n'en veut pour
soi. Et c'est surtout que quand on y touche, les gens croient qu'on leur enlève leur retraite, qu'on leur enlève un droit. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est un des éléments de notre moindre croissance par rapport à plein de pays, parce que les gens sont persuadés qu'ils n'auront pas de retraite, ou en tout cas des retraites très éloignées du niveau de leurs aînés.
Mélisa Palski.
Oui, et aussi, on n'a pas compris, parce qu'en effet, cette première ce premier volet de la retraite était très compliqué, de la réforme. On n'a pas compris qu'il y avait des intentions aussi d'améliorer la retraite des femmes, des agriculteurs, peut-être des jeunes, de voir un petit peu plus loin. Et du coup, c'est plusieurs objectifs, ça ne marchait pas. Moi, je me suis posé la question, pourquoi en sortie de crise ressortir la réforme des retraites avec le risque, je le disais tout à l'heure, que la rentrée... Voilà, la réponse quand même, oui, je l'ai trouvée. On parle un petit peu à la droite, évidemment. Et on veut aussi... je pense que les Français, même si ils ont du mal à écouter toutes ces réformes et à les accepter, ils sont quand même d'accord pour la fin des régimes spéciaux. Il y a des choses qui leur parlent et ils comprennent qu'il faut agiter, qu'il faut faire quelque chose s'ils veulent garder la retraite. Oui, mais pas complètement, pas jusqu'au bout. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout. Et les Français sont d'accord pour attaquer ça parce qu'ils se disent, si on n'attaque pas ça, j'aurai pas ma retraite en entier. Donc on sent qu'on a encore beaucoup d'objectifs pour ce deuxième lancer de réforme. Et je suis pas sûre que ça soit plus compréhensible, justement, en mettant beaucoup d'objectifs pour ça avec un temps si court.
C'est pas fini, les régimes spéciaux?
En grande partie terminée, notamment les SNCF et tout ça. Mais c'est pas un régime spécial. Mais par exemple, dans le but de cette réforme à points, c'est-à-dire que les fonctionnaires, à terme, allaient entrer également dans
l'idée, c'était
dans
la réforme.
Donc on était sur de l'universalité. On n'est pas sur un régime spécial, on est sur un régime...
C'était une des promesses quand même de cette réforme, de dire un point équivaut, quel que soit sa fonction, quel que soit son statut.
C'est tenable, Pascal Perrino, pour terminer sur ce sujet, en pleine campagne électorale, de remettre sur le métier
la
réforme des retraites.
N'oublions pas que la dernière grande mobilisation sociale avant la Covid, ça a été une mobilisation sociale qui était importante tout de même, contre la réforme des retraites et même...
Et la loi travail aussi.
Voilà, et la loi travail. Et le grand syndicat réformiste qu'est la CFDT n'est pas en accord avec le président de la République et avec la Macronie. Donc il faut faire attention. Or, c'est devenu le premier syndicat tout de même.
Bien, on verra ce que dit le président de la République, puisque visiblement, c'est lui qui a les clés et la main sur la question. 18h46, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On parlera du gifleur, l'agresseur du président de la République qui comparaissait donc aujourd'hui au tribunal. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, la suite du débat des grandes voix du jour jeudi, avec toujours Émilie Zapalski, communicante politique, Pascal Perrino, politologue, et Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1. Alors, 18 mois de prison ferme requis pour l'auteur de la gifle à l'encontre du chef de l'État. À la barre, il a maintenu que son geste était spontané, avoir agi d'instinct, sans réfléchir, pour exprimer, dit-il, son mécontentement. Emmanuel Macron s'est exprimé à la mi-journée sur le sujet.
D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé, du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre. Ensuite, la vraie violence, vous savez, c'est la violence que subissent les femmes qui meurent sous le coup de leur compagnon et de leur mari. C'est la violence que subissent celles et ceux qui rentrent chez eux, qui sont agressés. C'est ça, c'est la vraie violence.
Il a raison de tempérer, Émilie Zapalski, le président de la République, et de dédramatiser un peu cette claque, parce qu'on a beaucoup dit et beaucoup entendu, c'est le symbole d'une société de plus en plus violente, c'est le symbole d'un débat politique de plus en plus violent. Le président, il dit pas ça. Il dit c'est un acte isolé, faut le prendre comme tel.
Mais parce qu'il y a un risque pour lui, c'est surtout qu'il a tout intérêt à faire prendre cet acte pour un acte isolé. On voit bien qu'il y a un petit peu le spectre des gilets jaunes derrière, de l'extrême droite, il y a tout ça. Si on prend un sens politique à ce geste, ça devient beaucoup plus grave que lui qui est en train d'entamer sa campagne. On le voit bien, et qui est, on le disait tout à l'heure, qui surfe sur une vague plutôt positive, plutôt enthousiaste.
Oui.
Il veut absolument pas repartir dans ce mouvement social qui, vous vous souvenez, tous les samedis, enfin c'était pesant, ça a duré plusieurs mois, ça l'a empêché de faire tout, et surtout il a donné, c'est le seul point sur lequel la violence a pu gagner, c'est que les gilets jaunes, en étant violents, ont obtenu quand même des choses, des réductions d'impôts notamment. Donc il a tout intérêt à faire ça. Sur les féminicides, c'est lui qui fait le parallèle, je trouve ça assez étrange, et par rapport à ce que la personne a pris, on peut dire qu'il y a eu un deux poids deux mesures, en tout cas, il y a eu tout de suite la prison, hein, la personne part en prison.
Oui.
Donc on peut se dire oui, si moi j'ai une violence, j'ai été violentée par mon mari, on a vu plein de cas où les femmes, il y a pas eu de suivi et finalement elles sont mortes. Et c'est lui-même qui fait le parallèle. Moi je trouve ça assez étrange parce qu'on voit qu'il y a un deux poids deux mesures. Donc je pense que là c'était un peu risqué de faire ce lien-là, mais bon, il l'a fait, il a osé.
Pascal Perrineau.
Oui, moi je crois, je comprends très bien qu'il relativise et que le candidat Macron qu'il est maintenant relativise. Mais enfin, c'est plus qu'Emmanuel Macron qui a été giflé, c'est le président de la République. Et je ne crois pas qu'une démocratie gagne à banaliser ce genre d'agression de l'homme ou de la femme, espérons un jour, qui représente la République française. Il y a d'une certaine manière même une certaine facilité.
Oui.
À faire cela. On voit bien qu'il y a un mouvement énorme de désinhibition dans la société française qui est préoccupant et qui peut être préoccupant pour le prochain président de la République, quel qu'il soit.
Emmanuel Dutheil.
Moi, j'ai un avis de citoyen, hein, là, bien évidemment, mais je suis d'accord avec Pascal Perrineau. Moi, je trouve qu'on ne peut pas banaliser un tel événement puisque c'est frapper effectivement la République et on doit être d'une fermeté exemplaire pour dire que ça ne doit bien évidemment jamais arriver, plus jamais arriver. Et je trouve que la façon dont là il en parle, en n'utilisant même pas le mot de gifle, mais en utilisant le mot de tape pour laisser penser que c'était quasiment une petite tapette, moi ça me pose véritablement un problème dans la façon où ça peut être exprimé. Et je pense, et là encore ce n'est qu'un avis de citoyen, mais même d'un point de vue purement politique, politicienne, à un moment où La République En Marche a du mal à s'inscrire sur les thèmes de la sécurité, sur l'ordre, bah, y a un moment il faut que le président de la République soit d'une fermeté total là-dessus. Alors, on va pas lui donner 20 ans de prison.
Il veut sous-estimer le geste pour pas que ça soit associé à quelque chose qui serait plus gros derrière. Mais juste pour revenir sur la banalisation, moi, je suis complètement d'accord avec vous de marquer le coup. Mais c'est lui même qui a fait le lien avec les féminicides. Donc, qu'on soit pareil. C'est quand même leur cheval de bataille.
Oui.
Marlène Schiappa, on n'avance pas là-dessus. Alors, pas de poids, de mesure. Si on est tapé, on est tapé.
Extrapoler non plus. Parce
mais c'est lui qui l'a fait.
À beaucoup de candidats ou de présidents, on se souvient Nicolas Sarkozy.
C'est pas normal qu'il
ait accroché par le.
C'est pas normal qu'on puisse imaginer. Imaginez que dans une démocratie, il y a une répétition. C'est-à-dire qu'un président ou qu'un homme politique de premier plan ne peut plus aller au contact des Français parce qu'il risque de se prendre une tape si on enlève tous les policiers autour de lui.
Oui.
Ça pose quand même un petit souci, ne serait-ce que de démocratie, parce que pour qu'il voit les gens, il faut quand même bien qu'il s'en approche.
Oui. Souvenez-vous qu'il y avait quand même eu une tentative d'assassinat contre Jacques Chirac un certain 14 juillet.
Bien évidemment.
Et que la société américaine, de ce point de vue-là, a connu la perte de deux présidents.
Bien sûr.
Pascal Perrineau.
C'est pas tout à fait un exemple, la société américaine.
Non, absolument.
À cet égard.
Mais c'est pas tout à fait propre à ce moment, même s'il y a une hystérisation en ce moment du débat politique.
Bien sûr. Mais on voit bien tout de même, et il faut lire tout ça ensemble, qu'on est dans une société dans laquelle la violence verbale se libère, dans laquelle la violence sociale est tout de même très très forte, vis-à-vis de tous les symboles d'autorité, j'allais dire d'en bas de la pyramide jusqu'en haut. Regardez le nombre d'agressions de maires. Regardez le nombre d'agressions de parlementaires au moment du mouvement des Gilets jaunes. Regardez l'envolée des agressions contre les pompiers, oui. qui en général nous veulent plutôt du bien. Hein. Regardez le nombre d'agressions contre les policiers, vous verrez bien qu'il y a quelque chose qui, dans la pyramide de l'autorité, se passe en France.
Oui. D'ailleurs, je reçois Franz-Olivier Gisbert, on peut terminer là-dessus, qui écrit un bouquin très intimiste sur, sur Bernard Tapie, un bouquin absolument passionnant, qui est admirable. Et il raconte comment Bernard Tapie voit la désagrégation de la société. Il dit, Bernard Tapie, ça commence à l'école. Avant, tu étais petit, tu chahutais en cours, tu te prenais une beigne du prof, et le soir, bim, ta mère t'en remettait une. Aujourd'hui, tout le monde est une victime, même les salauds.
Ouais, moi je trouve que c'est un peu excessif, ça m'énerve un petit peu ce son de cloche de dire ça se dégrade, ça se délite. Non, c'est pas vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà eu des actes de violence vis-à-vis des présidents, c'est pas quelque chose de souhaitable, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus.
Oui.
Il faut remettre les choses à leur place, la société n'est pas en train d'être complètement délitée. Moi je refuse ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de l'autorité, qu'on marque le coup, qu'on punisse les gens qu'on garde l'autorité, mais il faut pas exagérer.
Oui, je suis content de vous voir optimiste. Vous l'étiez moins tout à l'heure, oui. Sur la Covid. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, dans quelques secondes, le journal, 18h56. Et puis, on sera donc avec Franz-Olivier Gisbert pour parler de ce livre sur Bernard Tapie. À tout de suite.